Chapitre 2.
Bonjour et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice.
Et je suis Cécile.
Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Marie Vareille. Bonjour Marie.
Bonjour Alice, bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors Marie, tu as déjà été une de nos invitées dans chapitre 2 sur la première saison, mais aujourd'hui on voulait te retrouver pour parler de ton dernier roman, donc La dernière allumette, qui est sorti maintenant il y a 3 semaines. Voilà, on voulait en parler un peu plus en détail avec toi. Mais tout d'abord, Marie, ceux qui connaissent la deuxième saison de chapitre 2 savent qu'on aime bien que l'invité se présente comme il le souhaite. Donc, je te laisse te présenter comme tu le veux, Marie.
Je m'appelle Marie Vareille, je viens d'avoir 39 ans, je suis autrice de maintenant 11 romans. J'ai été publiée pour la première fois en 2014 et j'habite aux Pays-Bas et je suis la maman de deux petites filles de 3 ans et demi et 5 ans et demi.
Donc, ça fait 10 ans que t'es...
10 ans cette année, oui.
Ah ouais! C'est pas encore la date d'anniversaire, c'est ça? C'est plus tard?
Non, c'est le 6 juin.
D'accord, mois de juin. Ok. Ah, c'est... Et donc, 10 ans, mais plusieurs romans, parce que t'en as plus que 10?
J'en ai 11 parce que dans les 11, j'ai une trilogie qui s'appelle Elia la passeuse d'âme et qui est sortie entre d'autres romans.
Oui,
Donc
d'accord.
j'ai à peu près écrit un roman par an, mais voilà, ça dépend si on comptabilise cette trilogie comme un seul roman ou comme trois romans.
Ah oui, parce que si on le compte en 3, ça fait encore plus. Et
Non,
puis,
si on le compte en 3, ça fait 11, et si tu en comptes que 1, ça fait 9. Voilà.
d'accord, ok. Alors, pour te connaître un peu mieux, nous avons un petit jeu sur chapitre 2 qui s'appelle le tac au tac. En gros, on te donne deux propositions et il faut choisir le plus rapidement possible celle qui te semble la préférée. Alors, tu vas voir, des fois, les invités sont étonnés par leur réponse parce que, bah, comme on n'a pas le temps de réflexion, voilà, on peut avoir des choses étonnantes. Alors, tu es prête?
Je suis prête, vas-y.
Alors, on y va. Thé ou café?
Thé.
Sucré ou salé?
Salé.
Ah, t'es sérieux? J'étais sûre que t'étais le sucré.
En fait, je suis très sucrée, mais s'il fallait que je renonce à un des deux, je renoncerais au sucré parce que je suis aussi très salée.
D'accord, ah ben voilà.
Et
Tu vois, déjà là, tu m'as eu. Je ne pensais pas du tout.
ouais.
Matin ou soir?
Matin.
Été ou hiver?
Été.
Alors, lire ou écrire?
Lire.
C'est vrai aussi?
Pareil, on m'a déjà demandé s'il fallait que je renonce à un des deux, lire ou écrire. Je renoncerai à écrire parce que c'est quand même vachement plus fatigant.
Ah oui.
Alors que lire, bon.
D'accord, ouais.
Mais bon,
Par contre,
idéalement, je préfère garder les deux.
oui, ce que j'allais
J'aurais
dire,
mettre
ne
le couteau
renonce
sous la
pas.
gorge, mais
Ne
si
renonce
vraiment il
pas.
fallait, voilà.
Littérature française ou anglo-saxonne?
Ah, anglo-saxonne, je pense.
Je m'en doutais. Action ou vérité?
Vérité.
Vérité, donc ça veut dire que tu vas nous dire toute la vérité sur la prochaine question.
Ah oui, on se met vraiment, ok. Bon, action.
Non, bon. Vérité, c'est quelle est ta pire dédicace? La pire dédicace que tu as vécue?
Une anecdote, et pas forcément le lieu, mais une
Non,
anecdote.
oui. Une anecdote.
Oh, j'ai fait. Alors c'est difficile de choisir parce que j'en ai quand même eu deux trois pas marrantes. Il y a une dame une fois qui m'a dit vous êtes mieux en photo. Elle est arrivée devant moi. Elle m'a dit ah vous êtes mieux en photo. Voilà.
Oh, c'est horrible.
Ça t'est dit?
Y a un mec hyper bizarre qui est venu me voir une fois. J'étais toute seule dans un espace culturel Leclerc. Il m'a dit oui j'ai vu votre photo dans le journal donc je suis venue et en gros il venait pour me draguer quoi sauf que j'étais pas du tout là mais comme à l'époque j'avais absolument personne à mes dédicaces j'osais pas trop lui dire bah je suis là pour vendre des livres et alors d'ailleurs j'ai compris ce jour-là je trouvais un truc hyper bien quand les gens viennent vous parler en dédicace et qu'ils ont pas du tout l'intention d'acheter un livre et qu'ils sont juste là en gros pour vous embêter ou autre. C'est au bout de 2 minutes, prendre le livre et le dire, alors je le mets à quel nom? Et alors ça les
Ah.
déstabilise vachement parce qu'ils sont pas du tout prévus de l'acheter. Et en général, du coup, ils sont gênés, ils partent. Et j'ai fait une dédicace aussi. En fait, j'ai fait une dédicace le jour de la sortie du deuxième tome de 50 nuances degrés.
Ah
Et
oui.
alors ça, c'était mais extraordinaire. C'est-à-dire que j'étais à l'entrée du magasin avec ma table et mes livres. Et toute l'après-midi, vraiment, les gens entraient et ils disaient, oui, je cherche 50 nuances degrés. Et donc, je leur indiquais, parce qu'il y avait une tellement grande table avec les tomes et tout, je voyais bien où est-ce qu'ils étaient. Et donc, je leur disais, ah bah, c'est là. Et toute l'après-midi, j'ai passé l'après-midi à indiquer aux gens où était le deuxième tome de 50 nuances degrés. Bon, après, il y a plein d'anecdotes et tout, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup des dédicaces en début
Ouais.
de carrière. Donc, forcément, il y a des anecdotes, quoi.
Et pour l'histoire de 50 nuances, c'était quoi ton livre que tu dédicaçais à l'époque?
C'était Je peux très bien me passer de toi.
Ah oui, d'accord, rien à
Donc,
voir.
c'est mon deuxième roman, c'était en 2015.
Ouais, effectivement. C'est rien à voir, les 50 nuances.
Et justement, donc, tu as écrit 11 romans, tu as une expérience aussi en salon, tu as une expérience de formatrice avec les masterclass que tu proposes. J'ai encore vu la pub il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu conseillerais à un auteur qui se lance?
Il y a beaucoup de choses à conseiller à un auteur qui se lance, mais je pense que quelqu'un qui a encore jamais écrit un roman jusqu'au bout, pour moi, la chose la plus importante à comprendre, c'est que la difficulté fait partie du processus. Et que donc, à un moment, immanquablement, et c'est vrai pour le premier roman, et c'est, enfin, personnellement, moi, ça a été vrai pour les 11, 12 mêmes romans que j'ai écrits, parce que j'y en a un qui j'ai écrit, mais qui n'a pas été publié. Il y a un moment, on va être bloqué, il y a un moment, ça va être difficile, on va tout remettre en question. Mais ce moment-là, souvent quand c'est son premier roman, on a tendance à l'interpréter comme une raison d'abandonner, de se dire soit je suis pas fait pour ça, soit c'est pas la bonne histoire, soit je vais jamais y arriver, ou j'y arrive plus, ou j'ai pas assez d'idées, etc. Alors qu'en fait, ça fait partie du processus exactement de la même façon que les moments où au contraire ça coule tout seul, on écrit 3 heures, on a l'impression que 10 minutes se sont écoulées, font partie du processus d'écriture. Et donc ça, faut comprendre ça, et donc faut pas se laisser décourager par ces murs qu'on peut rencontrer dans l'écriture. Moi, j'en ai toujours un. J'ai toujours une espèce de motivation du début qui va me tenir 50 pages, parfois 100, où je suis à fond, je suis trop contente de me lancer dans l'écriture. C'est vraiment l'élan de la décision d'écrire ce roman, cette histoire-là, etc. Et puis, j'ai toujours un mur que je me prends dans la figure. Après cette première lancée, qui est toujours très difficile à franchir, hein, même après beaucoup, beaucoup de romans.
Encore
Ok.
aujourd'hui, du coup, oui.
Ouais, encore aujourd'hui.
D'accord.
Et après, sinon, ouais, j'ai envie de dire, mais enfin, il y a plein de conseils à donner, mais il faut écrire beaucoup. Il faut vraiment écrire beaucoup. Il faut retravailler parce que moi, je crois vraiment qu'on progresse dans l'écriture de la même manière que on progresse en piano, en dessin, etc., en s'entraînant. Même si en France, je sais que parfois, on n'aime pas trop cette idée qu'on peut apprendre à écrire. On ne peut pas tout apprendre, mais il y a vraiment des choses dans lesquelles on peut progresser. Donc, pour moi, plus on écrit, plus on devient écrivain, quoi. Donc, voilà, faut avoir une certaine discipline et beaucoup travailler. Faut l'avoir en tête, je pense, quand on commence.
Oui, que c'est pas forcément inné. Même pour les auteurs qui sont installés, en fait, il y a pas que le talent. Il y a beaucoup de travail derrière, quoi. C'est ça?
Je pense, oui. Oui. Après, tout le monde n'a pas le même talent au départ, c'est évident, hein. Il y a des gens qui ont un don extrêmement fort, d'autres beaucoup moins. Mais je pense que dans tous les cas, même quand on a beaucoup de talent, il faut toujours travailler. Ça, on sort pas 300 pages, géniales, cohérentes, passionnantes, avec des personnages fascinants, sans effort. J'y crois pas, quoi.
C'est du boulot, du
Ou
boulot,
alors
du boulot.
c'est 0,1% des écrivains et tant mieux pour eux, c'est des génies, mais la plupart d'entre nous, c'est pas ça.
Donc, du boulot, essentiellement du boulot, quoi. Faut y aller, faut y aller, faut y croire, ben faut y
Voilà.
aller.
Un super boulot, un boulot que j'adore, mais qui demande effectivement de la discipline, quoi. Sans aucune discipline. On peut avoir plein d'idées, on peut commencer. Moi, j'ai fait ça pendant des années, hein, de commencer plein de textes, de faire des morceaux de choses à droite, à gauche. J'écrivais tout le temps, hein, j'écrivais des mails super drôles à mes copines. J'écrivais un journal, je commençais des histoires, etc. Mais pour arriver au bout d'un roman, c'est pas la même chose en fait. C'est pas juste écrire, même avec du talent et ou pas. C'est un engagement en fait d'écrire un roman. Oui, moi je crois pas qu'on puisse écrire un roman entier sans aucun effort, juste parce qu'on est très talentueux.
De Marie lit un pyjama à Marie pareil. Il s'est passé combien de temps quand tu as débuté
J'ai été mariée avant d'être mariée en pyjama.
Oui, bien sûr.
Non, Marie lit en pyjama. Donc, ma chaîne YouTube, c'était, je sais pas, j'ai arrêté il y a peut-être 2 ans. En fait, il y a eu 2 étapes. C'est-à-dire, la dernière vidéo, je sais plus de quand elle date. Et puis, il y a un moment, mais longtemps après, peut-être 18 mois après, où je me suis dit, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo. J'ai absolument plus le temps d'en faire. Donc autant fermer la chaîne puisque ça en gros ça déçoit les gens quoi. Puis ils attendent des vidéos et puis j'avais vraiment le sentiment que cette aventure-là elle était terminée. Donc je crois que je l'ai fermée vraiment il y a peut-être pas si longtemps, hein, il y a 1 an et demi ou 2 ans. Mais les dernières vidéos que j'ai faites, elles datent de un peu plus longtemps que ça.
Mais tu as débuté avec la chaîne en même temps que ta carrière d'autrice ou c'était
Non,
antérieur?
non, non, j'ai d'abord écrit.
D'accord.
Ma chaîne, je l'ai commencée. Laisse-moi réfléchir. Ma chaîne, je pense que je l'ai commencée en 2017.
Oui.
Et j'ai été publiée pour la première fois en 2014. Donc j'avais déjà
Ouais,
publié
ok.
3 romans. En fait,
D'accord.
c'était une façon pour moi de promouvoir mes romans.
Oui,
Parce que
ok.
je voyais que c'était une communauté importante à ce moment-là. Enfin, c'est toujours une communauté importante, mais aujourd'hui, Instagram a quand même pas mal pris l'espace, quoi, de YouTube. Et donc, je me suis dit, bah, il faut, pour qu'on entende parler de mes livres, je vais me mettre sur YouTube. Et comme par ailleurs, je lis énormément, et ça, c'est vrai que j'avais toujours partagé mes lectures. J'avais un blog de lecture, etc., mais plus personne lisait les blogs. Et donc, je me suis dit, la chaîne, finalement, c'était, la transformation de mon blog sur un autre support. Et le
D'accord.
blog, pour le coup, je l'avais depuis. J'écrivais déjà, mais je crois que je l'ai commencé un peu avant d'être publié.
Ok, alors je reformule ma question. Du coup, depuis donc la Marie qui écrit sur ses lectures, donc un blog, à la Marie qui vend des best-sellers, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne sais pas comment expliquer, mais qu'est-ce qui a fait que, enfin, est-ce que tu te sens différente de cette femme au tout début, de ma vie, mon ex et autres calamités? Est-ce que tu te sens différente aujourd'hui?
Ah, je suis forcément différente parce que c'était il y a 10 ans. Entre-temps,
Oui.
j'ai eu 2 bébés, j'ai déménagé à l'étranger, pas même dans ma vie perso, il s'est passé plein de choses.
Ouais.
Et donc, oui, je suis différente. Mais c'est marrant parce que tu vois, par exemple, l'autre jour, j'ai ressorti toutes les lettres de refus que j'avais reçues de maison d'édition. Quand j'ai envoyé mon premier roman, donc ce fameux premier roman qui a jamais été publié. Et j'ai relu toutes ces lettres et il y en avait, je sais plus, quasiment 26, je crois, ou enfin en tout cas plus de 25. Et je me suis dit, 10 ans après, ou même plus d'ailleurs, parce que du coup c'était il y a 12 ans ou
Ouais.
13 ans, puisqu'après j'ai réécrit un roman, etc. Donc c'était il y a encore plus longtemps. Et je me suis dit, mais cette fille qui a écrit à côté de son boulot. Un roman qu'il envoie avec tous ses espoirs à 30 maisons d'édition, qui se prend 26 râteaux et qui se remet devant son ordi pour en écrire un autre, et ben, je crois qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas l'énergie de faire ça. Peut-être pas le courage. De recommencer sans me poser de questions alors qu'on m'avait dit non 26 fois, quoi. 26 fois, on m'a dit que c'était pas assez bonne, en gros. Enfin, évidemment, pas formulé comme ça, mais. Quand on vous dit bah non ton livre nous intéresse pas, c'est quand même ça veut dire il est pas assez bon. Et alors il y avait deux trois trucs hein, un peu plus encourageants dans toutes ces lettres, deux trois qui avaient pris la peine de rajouter une ligne à la main pour dire ah c'est pas si mal, vous devriez continuer, mais globalement c'était surtout non 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 et non quoi. Et je veux dire on a une énergie, j'avais une énergie que j'ai peut-être moins aujourd'hui. Aujourd'hui je sais pas si après tant de refus, j'aurai le. Et puis il y a une histoire d'ego aussi, hein. d'accepter. Alors qu'à l'époque, je me souviens, je l'avais pris. Enfin, vraiment, j'avais pris pour ce que c'était. Je me suis dit, ok, c'est pas assez bon, faut que je travaille plus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai recommencé un nouveau roman. J'ai même pas essayé de récupérer le premier. Je me suis dit, je recommence.
Et
Et tu
heureusement
l'as
que tu as
gardé?
continué. Oui, pardon.
Tu l'as gardé, du coup, ce premier roman? Tu l'as quelque part ou vraiment
Ah
tu
oui,
l'as pas?
bien sûr. Oui, je l'ai même. Parce qu'à l'époque, c'était des fallait l'envoyer en papier, donc j'avais imprimé à l'imprimerie, fait relier avec un boudin en plastique et tout. Donc j'en ai gardé un. Et je vais l'avoir quelque part sur un vieux disque dur, le fichier numérique.
Elle veut pas nous le faire lire. Et
Non. Mais non, parce que effectivement, il n'était pas assez bon. C'était une réalité. Donc c'est pas. Voilà. Bah, aujourd'hui, je l'ai relu. Il y a peut-être 3-4 ans, parce que je me demandais justement si je pouvais pas le récupérer.
ouais.
Et je l'ai lu, et voilà, je me dis, bah, je l'ai écrit, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 22 ans, ou, et il y a plein de trucs qui sont pas mal, mais il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Et voilà, effectivement, c'est un roman raté. Mais c'est pas grave, c'est un roman qui m'a énormément appris aussi.
Oui.
Ne serait-ce que ça m'a appris que je pouvais arriver au bout. Rien que pour ça m'a appris que je pouvais le faire, quoi.
Et puis il y a aussi ce courage que tu avais, et heureusement que tu l'avais, puisque comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'aujourd'hui tu ne le referais pas de continuer malgré les refus. Heureusement, parce que c'est
Bah,
grâce
je
à
sais
ça.
pas, ça me semblait en tout cas. Ouais, quand j'ai relu toutes les lettres d'une traite, je me suis dit, ouais, quand même, c'est dur.
Ouais.
Alors après, c'est vrai que je les ai pas reçus tout ensemble. Quand ça m'est arrivé, justement, là, il y a 12 ou 13 ans. Bon, je rentrais chez moi, il y a une lettre dans la boîte aux lettres, pleine d'espoir, je l'ouvrais. Alors en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que si quelqu'un avait voulu me publier, il m'aurait appelé. Il m'aurait pas envoyé une lettre.
Ouais.
Parce que c'était, voilà, c'était il y a un moment, mais c'était quand même pas le 19e siècle non plus. Mais j'avais quand même toujours un espoir que cette lettre, ça allait être une bonne nouvelle, quoi. Et elles ont été très étalées, hein, parce que je me souviens, enfin, je pense j'ai eu des lettres de refus, peut-être un an après avoir envoyé le manuscrit, parfois. Donc, peut-être que c'est pour ça que c'était moins violent, finalement, que quand je les ai toutes relues à la suite d'un coup. Où là, bon, on se dit, c'est un peu plombant quand même, quoi.
Ça fait beaucoup là, oui.
Ouais.
Mais heureusement, hein, mais heureusement que tu as continué. Et puis bon, je pense qu'il y en a qui se sont mordus les doigts à l'époque, puisque aujourd'hui, mine de rien, ça fonctionne. Donc effectivement, peut-être que pas sur le premier, mais par la suite, ça fonctionnait, quoi. Donc.
Oui. Non, non, maintenant, ça marche bien, mais de toute façon, et ça, je le savais aussi à l'époque, et c'est peut-être pour ça que quelque part, j'étais pas surprise et pas trop découragée. C'est que tout ça, c'est assez subjectif, et qu'il y a plein d'auteurs, qui ont galéré à être publiés, hein, à commencer, par J.K. Rowling, dans le premier tirage du tome 1 d'Harry Potter, je crois que c'était 800 exemplaires. Et que c'est une toute petite maison qui a fini par l'accepter parce qu'elle avait été refusée partout. Et Proust a été refusé chez Gallimard. Enfin, il n'y a pas de règle, mais j'avais lu aussi il y a quelques années quelqu'un qui s'était amusé à envoyer le manuscrit des Misérables à une maison d'édition, mais en changeant les prénoms pour pas que ce soit trop. Et il a été refusé.
Ah ouais.
Donc, ouais, parce qu'il y a plein de manuscrits, je pense, ils lisent 3 pages, ils font pas trop gaffe.
Ouais, puis
Parce que
c'est...
c'est très compliqué à gérer, hein. Vous
Ouais.
êtes pas la pierre aux éditeurs, parce qu'ils en reçoivent des milliers tous les ans, et c'est difficile de tout lire. Mais je pense que enfin, la raison pour laquelle tous ces refus m'ont pas non plus fait complètement abandonner, c'est parce que je savais que c'était vraiment compliqué de se faire publier. Quand on n'est pas du tout de ce milieu-là, qu'on n'a pas de contact et qu'on n'a aucune idée de comment ça marche, parce que j'avais aucune idée de comment ça marchait.
C'est le petit moment de la Madeleine de Proust de Cécile. Donc, c'est la séance psy gratuite. Je te laisse profiter.
Alors, Marie, dans cette Madeleine de Proust, on s'adresse à l'enfant que tu étais. Donc, je te pose des petites questions et tu réponds, si tu le veux, mais par les yeux de l'enfant que tu étais. Pas l'adulte que t'es devenu.
Ok.
S'il y a une question qui te plaît pas ou quoi que ce soit, tu le dis, on change. Et voilà. Est-ce que t'es prête?
Je suis prête.
Ok. Alors, Marie, les vacances de rêve quand t'avais 10 ans, c'était quoi?
C'était au soleil, au bord d'une piscine avec des livres. De préférence au milieu de nulle part.
Ah oui? Alors, genre la campagne ou
Ouais, j'aimais
vraiment un
bien.
petit
Souvent, mes
village?
parents l'été louaient une maison. Et dans le sud, pas la même, mais souvent pas au bord de la mer. Donc, c'était en général vraiment pleine campagne. Et j'aimais bien parce que dans les maisons de location, souvent il y a une bibliothèque que tu connais pas, avec des livres que t'as pas chez toi, qui sont je crois que c'était ça, ouais. J'avais pas à 10 ans, je crois pas que j'avais envie de faire de grands voyages ou c'était en 95, donc de toute façon on voyageait globalement moins, mais ce que j'aimais c'était lire, hein.
Et du coup, dans cette maison de vacances, dans la bibliothèque, tu te jettes d'abord sur quel genre de livre? Qu'est-ce qui te plaisait à cette époque-là?
Ceux dont je supposais que j'avais pas le droit de les lire. Voilà. Donc, je regardais, je me souviens d'avoir lu des SAS, des trucs. Alors, peut-être pas à 10 ans quand même, mais voilà, de piquer les trucs où je me disais, ah, ça, je suis pas sûre que ce soit vraiment de mon âge, par curiosité, parce que ça m'intéressait. Et puis après, bon, j'aimais, dans les livres, j'aimais les grandes histoires d'aventure, je lisais tout le Club des Cinq, le Plan des Sept, les enquêtes aussi. Il y avait Alice de Caroline Quinn, je crois. Caroline Quinn, je sais pas comment on dit. Ouais, je lisais un peu tout ce qui me tombait sous la main.
D'accord. Ok. Dernière petite question. L'odeur qui te rappelle ton enfance.
Bonne question. L'odeur qui me rappelle mon enfance. Je dirais peut-être le grenier de la maison de mes grands-parents en Corrèze. Où je dormais quand il y avait beaucoup de monde, il y avait une odeur un peu particulière qu'il y a parfois dans les greniers. J'ai envie de dire une odeur de poussière, mais n'allez pas croire qu'on m'enfermait dans un endroit poussiéreux quand j'étais petite, c'est pas ça, mais il y a une odeur quand même un peu particulière. C'était un grenier aménagé. Et je sais pas, ou peut-être de la cire, je sais pas, ouais. Mais c'est pas évident. Mais ça, oui, c'est une odeur assez caractéristique. Je me dis qu'il me rappellerait mon enfance si j'y retournais.
Oui, si tu sentais cette odeur-là, paf, ça te projette. Ok. Eh bien, merci beaucoup.
Tu as pas mal voyagé. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, tu vis aux Pays-Bas, mais de mémoire, t'as passé quelques années aux États-Unis.
J'ai passé un an aux États-Unis, un an à Londres et un an à Berlin. Et là,
Oui,
j'habite
voilà.
aux Pays-Bas depuis 5 ans.
Voilà. Donc, est-ce que, moi, j'ai envie de savoir, je t'ai jamais posé la question, est-ce que le fait d'avoir vécu comme ça dans des pays complètement différents où le mode de vie n'est pas le même, est-ce que tu penses que ça a influé en quelque part dans ta façon d'écrire ou en tout cas dans tes histoires?
Ou bah je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire que rencontrer de nouvelles personnes, voir d'autres pays, d'autres nationalités, d'autres cultures, ça ouvre l'esprit. Donc quelque part on emmagasine plein de choses différentes qui permettent peut-être de développer un peu plus l'imagination, parce qu'on a plus de choses concrètes sur lesquelles imaginer justement. Et surtout après, ça je le dis souvent et je pense que si j'étais pas allée aux États-Unis, j'aurais jamais écrit. Enfin, j'aurais en tout cas, je serais jamais devenue écrivaine parce que ça me paraissait complètement impossible d'être autrice. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais pas dans une famille ni dans le monde de l'édition, ni d'écrivain, ni même d'artiste, hein. Il n'y avait pas d'artiste dans quelque domaine que ce soit, personne qui travaillait, je sais pas, pour la télé. Donc pour moi, c'était pas du tout dans mon champ des possibles d'écrire, quoi. C'était un espèce de rêve. Pas très concret, mais auquel je m'étais jamais attelée sérieusement. C'est-à-dire que j'écrivais plein de choses, mais être romancière, c'était pas du tout. Oui, ça, c'était pas dans mon champ des possibles. Et quand j'ai fait mon année aux États-Unis, à la fin de mes études, année que j'ai faite aussi pour prolonger un peu mes études, parce que j'étais un peu paumée, j'avais fait des études de commerce, j'avais fait pas mal de stages, je voyais bien que ça me plaisait pas vraiment. Tant que ça de faire du marketing, donc j'avais pas très envie de commencer à travailler. Et quand j'ai eu cette opportunité de partir aux États-Unis, j'ai sauté dessus. Voilà, j'avais fait un dossier d'inscription. J'ai eu une bourse qui couvrait une partie des frais. Et je me suis dit, bon, bah, j'y vais, ça retarde d'un an finalement mon entrée dans la vie active. Et en fait, il y a vraiment une culture différente aux États-Unis. J'étais sur un campus à l'américaine, voilà, avec bah, plein d'Américains, forcément. Et il y a vraiment cette culture de, bah, ouais, si tu veux, t'as qu'à le faire, quoi. Et puis, cette idée qu'il faut toujours essayer. Que c'est pas grave de te planter, que de toute façon tu regretteras bien plus de pas avoir essayé plus tard que bah, d'avoir essayé et puis de pas avoir réussi. Ça, et ça c'est vraiment très différent en France et aux États-Unis. Et c'est pas, je sais pas comment te l'expliquer parce que c'est pas comme si j'avais des grandes conversations très concrètes sur l'échec, etc. Mais ça m'a, je me souviens d'une conversation avec une fille à la bibliothèque de mon université et où je sais pas pourquoi on discutait de ça et on commençait à parler de livres et tout parce que alors moi j'étudiais le business mais il se trouve que dans mon année universitaire vu que j'avais déjà mes crédits etc j'avais pu prendre une certaine partie de cours des cours de littérature et je lui parlais de ça et elle me disait mais t'as l'air vraiment passionnée par la littérature et je sais pas quoi et je lui dis en rigolant oui non mais au fond moi ce que je voudrais c'est être écrivain et elle m'avait regardée un peu étonnée elle m'avait dit bah deviens écrivain alors comme enfin sans comprendre pourquoi je disais ça et ça il faut vraiment être américain pour te balancer un truc pareil je pense qu'en France personne te dira ça quoi et je pense que ça m'avait fait réfléchir. Et puis, dans toute cette ambiance, justement, de gens qui tentent des choses, vraiment déculpabilisation de l'échec, en fait. L'échec, c'est pas grave. Limite, l'échec, ça a quelque chose de glorieux. Parce que ça montre que t'as essayé et que t'as tout donné. Et plus tu te plantes, en grand, et plus t'as essayé en grand, quoi. Et donc, ça, je pense que c'est pendant cette année que je me suis dit, OK, cette fois, je vais aller au bout d'un roman. Et je pense que c'est pas un hasard. Donc je pense vraiment que sans cette année aux États-Unis, j'aurais pas eu la foi, en fait, d'essayer.
Ah bah c'est cool, hein. Bah c'était bien fait d'y aller alors.
Merci.
Voilà.
Donc ton dernier roman, c'est La dernière allumette, qui connaît un beau succès à son lancement. Est-ce que tu l'as senti, ça? Est-ce que tu t'es dit, celui-ci, il aura peut-être un destin particulier?
Non, on sent pas. Moi, je crois pas que. J'ai des livres. Je me dis tout sur un livre en fait dans les mois qui précèdent la sortie. Je peux me dire que ça va être un énorme four, je peux me dire que ça va être un grand succès, que les gens vont l'adorer, le détester parce que de toute façon je suis hyper angoissée et je suis voilà, j'arrête pas d'y penser, ça part dans tous les sens. Après, je crois que la réalité c'est que c'est assez imprévisible le retour des lecteurs. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai mon bouquin mon premier livre qui a vraiment bien marché, il s'appelle La vie rêvée des chaussettes orphelines, et il a mieux marché, par exemple, que celui que j'ai sorti après. Et aujourd'hui, je suis pas vraiment capable d'expliquer pourquoi. Pourquoi ce livre-là, sans aucune pub, sans aucune promotion, dans une petite maison d'édition, avec une mise en place, enfin, qui était assez petite au début, etc. Pourquoi ces gens-là, les gens, les lecteurs, pourquoi ce livre-là, les gens s'en sont emparés et c'est que du bouche à oreille, quoi. C'est des gens qui disent, faut que tu lises ça. Et ça, tu peux pas prévoir. C'est très, alors après, je pense, je crois, peut-être que c'est pas vrai, mais que plus t'es sincère dans ce que t'écris, plus t'écris justement sans essayer de tricher, d'appliquer des recettes dont tu penses qu'elles vont marcher, etc. Et plus le lecteur sent que c'est un morceau de toi et donc finalement va accrocher. Mais c'est théorique en réalité, je sais pas, je peux pas te dire pourquoi. On a cette idée que plus on vend de livres, plus on vend de livres, mais c'est faux. Moi, depuis le début enfin, mon troisième roman, c'est beaucoup moins vendu que mon deuxième, mon cinquième, moins que mon quatrième, c'est en dents de scie, quoi. Et ça, c'est uniquement lié à l'engouement des lecteurs. Et cet engouement-là, tu peux pas le prévoir, parce que si tu pouvais le prévoir, finalement, tout le monde écrirait des best-sellers et voilà. Et tout le monde serait content. Pour finir ça, La dernière allumette en particulier, il me faisait très peur parce que je sais qu'il est plus sombre que. Je sais qu'il y a dedans des choses qui sont différentes de mes autres romans et que les lecteurs allaient être surpris par ce qu'ils allaient lire. Surpris au sens, pas surpris au sens twist, révélation, suspense, mais surpris au sens Ah, bah, j'ai lu ce qu'elle a écrit avant et maintenant elle a
Mmh.
écrit ça et c'est quand même différent.
Mmh.
D'accord.
Complètement. Moi, je pensais, est-ce que ça serait pas justement le twist qui fait que certains livres vont se vendre mieux ou pas? Je sais pas. C'est
Je
par
crois
rapport.
pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense que c'est une question de d'émotion ressentie au moment de la lecture et de capacité des lecteurs à. En fait, moi, je pense que le plus important. Je pense que le plus important dans la vie, c'est les autres, c'est les relations que tu as avec les autres. Et donc, je pense que le plus important dans un livre, c'est les personnages. Et les lecteurs, quand ils lisent un livre, normalement, ils développent une relation avec le personnage. Et il y a des histoires qui sont géniales, avec des twists de malade, vachement de suspense. Mais si le personnage, t'es pas attaché à lui, ou il t'intéresse pas, parce que parfois tu peux détester un personnage, mais t'es quand même fasciné par lui, de la même façon qu'il y a des gens que t'aimes pas dans la vie, mais qui peuvent te fasciner. T'as envie de savoir, tu t'accroches au livre. Moi, une histoire géniale avec un personnage que je trouve cliché, caricatural, sans intérêt, je vais pas aimer le livre. Alors qu'un personnage extraordinaire, qui a pas une histoire particulièrement fascinante, ça peut me passionner. Donc pour moi, c'est
D'accord.
la relation du lecteur au personnage, en fait.
L'attachement qu'il peut avoir au personnage, oui.
Ouais, ou pas forcément l'attachement, parce qu'encore une fois, je pense que tu peux être agacé, être énervé,
Oui.
mais en tout cas, un intérêt, la capacité de d'avoir une relation avec lui et de comprendre ce qu'il fait, pourquoi, et de te peut-être aussi t'identifier par moments comme, je sais pas, quelqu'un te raconte son histoire à une soirée et ça t'intéresse parce que même si tu l'as pas vécu, tu vas dire non mais ça aurait pu m'arriver ou ça arrive à quelqu'un que je connais ou alors ça peut m'arriver dans le futur. Voilà, c'est un type d'expérience humaine que tu vis à travers le personnage qui t'intéresse parce que tu sais que c'est une vraie expérience de la vie vécue par quelqu'un qui a l'air d'être une vraie personne qui est suffisamment bien construit et multidimensionnel pour ressembler à un vrai être humain et donc t'accroches.
Alors, justement, par rapport à ce dernier roman, La dernière allumette, nous avons un petit extrait que Cécile va nous lire pour entrer un peu plus dans l'ambiance du roman dont on va parler juste après.
Okay.
Abigail, maintenant. Gabriel n'est pas celui que vous croyez. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis ta petite sœur et le lien de sang qui nous unissait enfant ne s'est malheureusement jamais distendu. Ce n'est pas faute, pourtant, d'avoir tout fait pour l'éloigner de moi. Aujourd'hui encore, et bien qu'il ait 40 ans passés, il ne peut s'empêcher de me rendre visite au couvent 2 samedis par mois. Il me raconte sa vie dans les moindres détails, sans jamais s'enquérir de la mienne. Je suis la seule à qui il montre son vrai visage. Il sait bien que s'il me venait l'idée de trahir ses secrets, ma parole de folle ne vaudrait pas plus que le vent qui souffle sur le terrain boueux où se dressait autrefois notre maison familiale. J'ai entendu Sœur Marie-Clotilde annoncer l'autre jour qu'on y construirait bientôt un parking. J'ai hâte. La perspective de ces vagues de goudron brûlant, engloutissant ce qu'il reste de mon enfance, m'emplit de ravissement.
Merci. Marie, qu'est-ce qu'on peut dire de ce roman sans trop en dire? C'est hyper compliqué d'en parler.
C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, voilà,
Voilà.
qui ont grandi, dont on comprend très vite qu'ils ont grandi dans un foyer avec un père qui, avec eux, était plutôt aimant, surtout avec la petite sœur qu'il adore, mais qui le père était violent avec la maman. Et l'idée, c'est de le roman fait des allers-retours entre le passé et le présent, et c'est de montrer ce qu'on devient à l'âge adulte quand toute son enfance, on est spectateur de ça, de la violence.
On t'a entendu en interview lors de ton lancement, tu disais qu'effectivement, et t'en parles d'ailleurs dans le livre, c'est 3 sur 4 en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette théorie des 3 sur 4?
C'est pas une théorie, c'est une statistique que
Pardon, une
j'avais lue
statistique. Ouais.
dans un, je crois, un article où qui disait que 3 enfants sur 4 qui ont grandi donc avec un père violent avec la mère, c'est-à-dire y compris si eux-mêmes ne sont jamais victimes de cette violence, eux sont jamais frappés. 3 enfants sur 4 donc à l'âge adulte deviennent eux-mêmes soit violents avec leur conjoint, soit victimes d'un conjoint violent. Et ça m'avait beaucoup marqué, je trouvais ça terrible parce que ça veut dire que bah, tant qu'on règle pas le problème des violences conjugales, non seulement bah, on laisse un certain nombre de femmes, hein, plus de 100 000 tous les ans, en difficulté en France, Mais en plus, on détruit la génération d'après. On reproduit le problème et on l'augmente. Et donc, ça m'avait, voilà, ça m'avait beaucoup choquée. Je me suis dit, on parle beaucoup hein, en ce moment, et c'est une très bonne chose. On parle de la violence conjugale. On explique ce que c'est que l'emprise, la difficulté de partir, les problèmes de prise en charge, éventuellement dans les commissariats. Voilà, à chaque fois, il y a quand même encore un féminicide tous les 2 ou 3 jours en France, hein, en 2024, et on n'arrive pas à protéger ces femmes-là, donc c'est un problème. Et c'est bien d'en parler, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des enfants, que comment ils grandissent, les enfants, dans ces familles-là. Parce qu'évidemment, quand on est enfant, et ça, c'est un truc dont je me rends compte tous les jours avec mes propres enfants, un enfant petit, pour lui, la normalité, c'est ses parents. Voire même ce qu'il est bon de faire, c'est ses parents. C'est pas juste la normalité, c'est aussi le meilleur comportement, parce que bah on aime ses parents, et puis c'est le seul modèle qu'on a, c'est des gens qui
Modèle, ouais.
s'occupent de nous. Donc le modèle par excellence, c'est ses parents, et quand ses parents agissent mal, ça devient normal finalement de mal agir.
Dans ce roman, tu fais parler plusieurs personnes. Donc j'en dirai pas plus, mais il y a une construction particulière qui fait que l'histoire est passionnante et qu'on a envie de tourner les pages. Et je voulais savoir, est-ce que tu l'as construit comme on le lit? Est-ce que tu l'as écrit comme on le lit? Ou est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des parties qui ont été déplacées, qui ont été, je sais pas, façonnées pour que ça le rende encore plus additif?
Je l'ai pas écrit comme on le lit, donc effectivement il y a
D'accord.
trois voix dans ce roman. Il y a trois histoires en parallèle, hein, même si c'est la même histoire, mais c'est différents personnages, ou en tout cas même personnage mais à différents moments. Et donc je savais qu'il y avait ces trois voix, et parfois j'enchaînais plusieurs parties de la même voix à la suite, et après je les intercalais. Parce que parfois j'étais prise sur ma lancée. Par exemple, quand j'écrivais le passé, j'étais dans
Oui.
mon histoire passée, je continuais à écrire, et je me disais, je verrai après si je mets tout d'un seul tenant, ou si je le sépare pour intercaler le présent à certains endroits. Donc il y a des choses que j'ai écrites comme elles sont lues, mais il y a aussi beaucoup de choses où j'ai après refaçonné en déplaçant des chapitres, en intercalant d'autres choses. Pour garder un rythme en fait tout le long du récit, et aussi parce que en termes de la façon dont je raconte l'histoire, est-ce qu'on sait sur l'histoire, enfin ce que je veux que le lecteur comprenne sur l'histoire, à quel moment, ça me paraissait plus pertinent comme ça. Donc moi, c'est ce que je dis souvent. Autant pour mes premiers romans, je faisais beaucoup de plans, maintenant j'en fais plus du tout. C'est pas hyper efficace parce que j'écris un peu dans tous les sens. Et ça me demande de beaucoup retravailler, de beaucoup reprendre, de couper parfois des passages assez importants. Mais c'est comme ça, à mon sens, que moi, dans mon processus d'écriture, j'ai abouti au meilleur résultat. En
D'accord.
fait, pour faire un parallèle avec ce que dit le personnage d'Abigail quand elle explique qu'elle a un arbre dans sa tête et que ça part dans tous les sens, moi, j'ai un peu le sentiment que parfois, on pense qu'une histoire, c'est une ligne droite, et que on va du début à la fin en ligne droite. Et je pense qu'en fait, une histoire, justement, c'est un arbre. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités à chaque étape, plein de possibilités de décision de personnage, de qu'est-ce qu'on choisit de faire, enfin, à ce moment-là, etc. Et que donc, il faut essayer de contrôler un peu cet arbre pour pas qu'il parte dans tous les sens. Et c'est pour
D'accord.
ça qu'après, il faut revenir, il faut tailler, couper, nettoyer, pour que ce soit propre.
Ok, bon, ben, c'est sympa de savoir que c'était pas comme ça à l'origine et que tu l'as, voilà, taillé, on va dire, hein, comme tu parlais de l'arbre, pour que ça arrive à ce livre qu'on a lu, enfin, que j'ai lu personnellement et que les autres vont découvrir sûrement et qu'ils vont aimer. Parce que je t'ai dit, je suis à 100% sûre que cette histoire va être aimée par tous les lecteurs. Moi, j'ai une question qui est, alors, personnelle, parce que c'est moi qui te la pose, parce que je suis une de tes plus grandes fans, mais aussi, je pense que ça concerne tous les personnes qui te suivent et qui te lisent. Comment tu fais encore aujourd'hui, au bout de 11 romans, pour nous surprendre. Parce que tu nous surprends, ton style change, tes histoires changent, tes personnages sont de plus en plus, entre guillemets, bien sûr, sombres. Et c'est pas forcément sombre l'histoire au début. Je me rappelle quand je l'ai commencé et je t'ai dit, mais il est vachement sombre. Et tu m'as dit, non, il n'est pas sombre. Et effectivement, c'était dingue parce que oui, il n'est pas sombre ce roman. Mais pourtant, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu, tu changes, ça. Je ne sais pas si tu as l'impression de changer vraiment.
Si.
Si,
Non,
quand
si, j'ai
même.
complètement conscience de l'évolution, enfin, entre
De
mon premier
l'évolution,
roman
oui.
et celui-là, je peux pas ne pas en avoir conscience. Et puis, on m'en parle beaucoup aussi, hein. De manière d'ailleurs parfois plus ou moins délicate.
Ah
Il y a
bon?
des gens qui... Ouais, ça arrive qu'on me dise... ça arrive, hein, qu'on me dise ça, vraiment très, très surpris. Je m'attendais pas à aimer. Parce que je pensais que tu pouvais écrire que des trucs, pas aussi directement que ça, mais où les gens sont hyper étonnés que j'ai pu écrire un truc pas complètement débile, quoi. Enfin, c'est un peu le...
Plutôt
si, un peu le
léger,
sentiment que j'ai parfois.
plutôt léger que
Oui, bah,
débile, je
débile, c'est
dirais
pas
quand
le
même.
terme. Mais,
Ouais, bien
et d'ailleurs, je
sûr.
renie pas du tout, hein, mes premiers romans, c'est pas du tout ça.
C'est autre
Et je
chose.
pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'envie de nouveauté parce que moi je veux
Ouais.
pas du tout, mais ça j'ai toujours eu, écrire le même roman plusieurs fois. Si j'écris un roman une fois, je vois pas l'intérêt de le réécrire. Et c'est pas parce que ça marche que je vais me dire ah bah je vais refaire ça pour que ça remarche, parce qu'en plus je crois pas du tout à ça. Je pense que justement si t'as fait un truc un peu original et qu'il a marché, derrière tu peux pas plus décevoir les lectures. Que les lecteurs, qu'en essayant de refaire le
À la
même
même.
truc avec une autre sauce. Voilà. Écrire un roman, c'est long, hein. Moi, j'écris pas vite. Ça me prend un an. Ça me demande beaucoup d'énergie, d'efforts, de tentatives, etc. Donc, j'ai pas envie de faire un truc que j'ai déjà fait. Donc, j'ai toujours envie d'explorer des choses nouvelles. Ça, c'est le... Et donc, assez naturellement, même pas vraiment exprès, quand je commence à écrire. Je me dis, ah, mais ça, si je faisais ça, j'ai encore jamais fait.
Ah,
Il y a
cool.
ça. Et l'autre truc, bah, c'est la faute des lecteurs, en fait, j'ai envie de dire. Parce que non, mais à chaque fois, quand, en fait, j'aime que les lecteurs disent, je m'y attendais pas.
Ouais.
Mais donc, il y a quand même une partie de moi qui a envie de continuer à avoir ce retour-là des lecteurs. De... J'ai pas envie qu'ils s'attendent à ce que je vais écrire. Que ce soit sur le style, le fond, le sujet, le type de roman ou les rebondissements de l'histoire, en fait. Je veux pas qu'on s'attende à ce que je vais écrire. J'aime cette idée de surprise.
Tu
Et
vas
parce que,
chercher.
en plus, moi-même, j'ai la surprise. Enfin, si je me... Comme je fais plus de plans, si je me dis ce que je veux, c'est surprendre les lecteurs. En fait, je m'amuse à me surprendre moi-même.
Ouais.
La fin de la dernière allumette, il y a plein de choses que je savais. Il y a des choses que je savais, mais il y a plein de choses que je savais pas. Je savais pas comment ça allait vraiment se terminer. Je savais pas qui allait s'en sortir. Je savais, je, enfin, notamment, il y a un moment, une décision assez clé d'un des personnages principaux de tomber d'un côté ou de l'autre, et ça jusqu'à la dernière minute. Moi qui écrivais, je ne savais pas ce qu'il allait décider, ce personnage-là.
Ah ouais.
Mmh.
Non, tu te
Et
surprends
ça, c'était
toi-même.
beaucoup. Voilà, c'est ça,
Voilà. C'est sympa, c'est sympa. Après, je pense que c'était déjà en toi ce côté un peu plus sombre que tu explores aujourd'hui et qui nous plaît et qui
mais c'est en
fait.
tout le monde, je pense.
Ouais.
Je pense qu'on a tous ces deux côtés-là et le côté lumineux, le côté sombre. Alors évidemment, certaines personnes, il y en a un qui a plus de force que d'autres, hein, en fonction de ce qu'on a vécu, etc. Mais et je pense que pour moi, en tout cas, quand on écrit une histoire, c'est hyper important d'avoir les deux côtés de maintenant de la pièce. Que c'est tricher, je trouve, de parler de tout ce qui va mal sans parler de la
Ouais.
lumière, de la joie, de la vie. Et c'est tricher aussi de dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sans parler aussi des difficultés. La littérature, elle est supposée représenter la vie. Donc s'il n'y a pas ces deux facettes fondamentales de la vie humaine dans une histoire, il manque quelque chose, à mon sens.
Et d'ailleurs, tu le dis dans ton livre, justement. écrire un livre. Tu dis un personnage, s'il est antipathique, il faut que qu'il soit aussi un peu pas qu'antipathique, parce qu'en fait dans la vraie vie ça n'existe pas que des gens pas sympas. Il y a le méchant qui peut être avoir entremis des conséquences, des excuses entre guillemets. Et pareil le gentil qui peut avoir un peu de côté plus sombre. Donc c'était un bibalance que qu'on voit aussi. C'est pour ça aussi qu'on s'attache à tes personnages par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils sont, à qui ils sont. Peut-être qu'ils font que voilà, c'est ils nous marquent en fait, comme
Ben, j'essaye de faire des personnages humains parce qu'on a tous des moments où parfois on a des faiblesses, on a tous des moments même des gens qui paraissent très antipathiques qui vont faire un truc sympa un jour parce qu'ils vont être touchés par quelqu'un. On est effectivement à moi d'écrire une histoire de super-héros avec Superman versus le grand méchant. Je pense que c'est il faut montrer les forces. On a tous des forces, des faiblesses. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, même quand on est très mauvais, fondamentalement mauvais, là, je trouve que ce qui peut être vraiment intéressant, c'est pourquoi on est comme ça, parce qu'il y a quand même des raisons a priori, comme on est venu comme ça, et dans quel contexte on ne l'est plus, quoi.
On peut pas.
J'ai vachement aimé là récemment, c'est complètement hors sujet, mais comme je viens de voir le film, ils ont sorti le préquel d'Hunger Games qui raconte la jeunesse du président Snow, qui est le grand méchant en fait des Hunger Games qu'on connaissait. Et moi ça, je trouve ça génial parce que bah il est pas du tout méchant en fait. C'est au contraire, il est plutôt idéaliste, il est plutôt et tout ce film, c'est de montrer comment il est devenu. L'espèce de dictateur
Pour coller à la
terrifiant
fin.
des trois autres. Et ça, pour moi, c'est vachement intéressant.
Et ces personnages, en plus, je trouve, ils sont encore plus attachants que les autres quand ils sont travaillés comme ça.
Bah oui, parce qu'ils sont plus humains. Quand tu
Ouais,
peux
c'est clair.
comprendre un méchant, entre guillemets, peux pas, ça te fait réfléchir. En plus, tu te dis peut-être que moi, si j'avais eu le même parcours, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'avais eu ces décisions-là terribles à prendre, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, ça t'interroge.
Bon, Marie, en ce moment, tu es en tournée, on va dire. Tu fais la tournée de plein de salons, de dédicaces en France, essentiellement. Est-ce
Un peu
que.
la Suisse et la Belgique aussi.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, je serai au Salon du Livre de Bruxelles bientôt.
C'est quoi tes projets par la suite?
Bah, il faut que je me remette sur un roman, mais effectivement, la période de promotion, de sortie d'un livre, c'est compliqué de se concentrer parce que c'est une période très effervescente, avec beaucoup de, voilà, d'événements, très intenses en émotions aussi, parce qu'on rencontre les lecteurs, etc. Donc là, j'écris pas, si c'est ta question.
Non, non, mais
Si
bien
j'en ai
sûr.
des tristes à envoyer pour me poser cette question, je n'écris pas. Mais je commence à réfléchir. Mais je sais, sincèrement, et pour le moment, je sais pas du tout. J'ai quelques idées, mais je sais pas dans laquelle je vais me lancer. J'ai pas encore décidé. Donc,
Non, non, mais prends
je peux
ton
pas
temps, hein.
te dire beaucoup plus.
Non, mais prends ton temps. Je sais qu'il y en a qui voudraient tous les ans que tu sortes un roman. Mais moi, j'ai envie de dire, s'il est comme la dernière allumette, prends tranquille 2 ans, hein, pas de problème.
Mais c'est bien mon intention
Oui, mais comme ça, tu as le temps
de.
de, voilà, de le poser. Et puis, nous, on aura le temps d'en parler dans la dernière allumette et que tout le monde le lise. Et puis aussi les lecteurs que tu n'as pas d'habitude. Parce qu'avec celui-là, je pense que tu vas aller chercher d'autres personnes, justement. Et c'est ça qui est super. Bon, bah, ça va être la fin. Ça va être la fin de cette émission. Merci beaucoup, Marie.
Ben,
Merci à.
merci à vous toutes les deux de m'avoir
Avec
accueilli
plaisir.
deuxième fois sur ce podcast.
C'était super. Merci à nos éditeurs. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Marie. Par contre, n'hésitez pas à la lire, surtout la dernière allumette. Que moi, je pense que c'est le livre qui restera à vie et dans ma tête. Je te remercie, Marie, donc, et
Merci Alice.
je te
Merci
laisse
Cécile. Avec plaisir.
le mot de la fin.
Eh ben, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était Marie Vareille, vous avez écouté chapitre 2.
Chapitre 2.
Chapitre 2.